Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe A, mes amis, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qui tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà mon oncle qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, ça m'a plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Le résultat, tous les grands chefs d'État y ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnard était aussi petite. Mais sitôt qu'il fut tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Mon oncle, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on la traînait et devant les jurés, le voilà qui bafouille. C'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience, qu'en détruisant tout cet ordu, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on condamna et puis on l'amnistia. Élu immédiatement. chef du gouvernement. Chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors, après cette introduction chaloupée de la chanson de Boris Vian, je vais vous présenter les invités que nous avons aujourd'hui sur le plateau. Il y a bien sûr Claude Pentier, que vous connaissez très bien, qui est le directeur du dictionnaire Métron. Annie Pentier, qui s'occupe aussi de l'association des Amis du Métron, et puis qui travaille aussi beaucoup avec Claude Pentier, je crois, actuellement.
Et notamment sur les fusillés.
Et puis Gilles Alfonsi, qui va nous parler de son livre « Sortie de l'ombre », qui est un livre qui vient de paraître. Alors, je vais d'abord les saluer. Gilles Alfonsi, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Annie.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Claude.
Bonsoir Bernard.
Parle plus fort.
Nous sommes de vieilles connaissances.
Parce que sinon je t'entends pas bien là. Alors, donc, comme je sais, Annie et Claude, que vous allez partir un petit peu avant la fin de l'émission, on va commencer par parler du Métron, parce qu'il y a eu quand même les journées Métron récemment. On va en parler, d'ailleurs, Gilles Alfonsi y a assisté aussi, je crois. Ouais. Alors, Gilles Alfonsi, bien sûr, Claude Pentier, on le présente plus, on sait que... Il est historien, tout ça. Et puis, Gilles Alfonsi est sociologue, c'est bien ça. Rédacteur en chef de la revue Combat face au SIDA, c'est bien ça?
C'est ça.
Rédacteur aussi du site Regard. Alors là, on va reparler de tout ça. Et puis, on va reparler surtout, bien sûr, du livre Sortie de l'ombre, enquête sur des massacres ignorés de la division Das Reich, donc une division allemande, une division nazie, qui a fait beaucoup de dégâts humains. Alors, on va commencer donc par... les journées Métron qui se sont tenues le 6 et 7 décembre 2022 au campus Cornorsay. Et Jean-Louis Robert, qui est donc le président de l'association des Amis du Métron, a dit « Nous sommes dans une situation paradoxale, jamais le site n'a été aussi productif. » Mais Claude a rajouté « Nous sommes confrontés à la démission de notre secrétaire général Paul Boulan, et donc qui s'occupait du site. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans l'association? Il y a eu pas mal de questions, d'interventions, d'un responsable du CNRS dont nous allons parler. Alors, je ne sais pas, je donne peut-être la parole à Claude Pentier d'abord.
Oui, alors bon, d'abord... Les journées Métron, c'était tout un ensemble. Hein. Il y a eu une bonne table ronde sur la guerre d'Espagne, qui était tout à fait passionnante. Et il y a eu, bien sûr, des réflexions. Le premier jour sur le site, l'évolution du site Métron, ses usages, etc. Et puis le deuxième jour sur les perspectives biographiques pour les différentes périodes. Mais nous sommes confrontés à une difficulté, on a une crise de croissance, c'est-à-dire qu'on augmente nos biographies à raison de 12 500 par an.
Alors il faut dire combien il y en a
déjà. Ce qui est beaucoup, il y en a 120 000. 220 000.
220 000.
225 000, allez, soyons précis, 225 000. Il y avait un jeune, c'est quelqu'un de la quarantaine qui avait été étudiant avec moi en master, en mémoire de maîtrise, et puis qui a toujours accompagné, mais au bout de 20 ans, il en a eu assez, il a envie de faire autre chose que le Métron, mais ça a créé une crise institutionnelle avec le CNRS, où un petit peu de façon bureaucratique, la direction du CNRS veut prendre la... puisque maintenant, c'est eux qui sont éditeurs de la base et qui a moins de dictionnaires papier, sauf le dictionnaire de la commune que tu connais bien. Et donc le CNRS, de façon un peu bureaucratique, veut mettre la main sur la base, le gérer par elle-même, a été jusqu'à couper l'accès, après la journée Métron, ils ont coupé l'accès au site, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre de nouvelles biographies, c'est l'accès de la partie publication, hein. Donc on ne peut plus mettre de nouvelles biographies et corriger les anciennes biographies. Or non, tous les jours, Il y a des gens qui nous écrivent pour ajouter ceci, ajouter cela, etc. Donc, c'est un coup assez dur. On va d'ailleurs lancer ces jours-ci un appel interne. Hein. On fait pas appel à la presse pour l'instant, pour mettre fin à cette situation, pour réagir par rapport à cette situation. C'est peut-être la fin des grandes initiatives qui sont à la fois ouvertes à la société, quoi. C'est la science ouverte, hein. Là, on va peut-être vers quelque chose qui est, pour le CNRS, de plus interne, de plus s'adressant aux chercheurs, s'adressant aux universitaires uniquement. Mais enfin, on va réagir à ça, on a les moyens de le faire, mais pour l'instant, on est dans une situation dure. Dur, puisque le site est bloqué.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué, parce que, bien sûr, on peut encore aller sur le site pour faire des recherches, mais on ne peut pas l'actualiser. On ne peut plus l'actualiser. Et ceux qui actualisaient le site tous les jours, et toi, tu l'actualisais très souvent, parce qu'on envoyait même des corrections, etc. Tout ce qui l'actualisait, ou si par exemple quelqu'un décède, on le mettait en une, etc. Quand il y avait un événement, on le mettait en une. Maintenant, les historiens, enfin, les administrateurs, comme on les appelle, du Métron, qui
était... Ils sont au nombre de 35.
Au 35, le faisaient régulièrement, quotidiennement. Et aujourd'hui, donc, il paraît, d'après ce qu'on nous a dit, enfin d'après ce que j'ai appris, que maintenant ça va être géré par M. Emmanuel Bélanger, directeur du Centre d'Histoire Sociale, et il a tout bloqué, et il a l'intention, paraît-il, d'après ce que j'ai entendu, de le bloquer pendant 6 mois. Mais c'est énorme, 6 mois.
Ah, ce sera énorme. S'il bloquait pendant 6 mois, ce serait scandaleux. Mais ce qui vise derrière, c'est les réorganisations du site, qui, dans tous les cas, diminueront les mêmes... Au final, les accès seront beaucoup plus compliqués. Il y aura très peu d'administrateurs. Ils ont déclaré qu'il n'y en aurait qu'un. Parce qu'ils ne connaissent rien.
Oui, parce que c'est un webmaster.
C'est le webmaster. Le webmaster, c'est un. Mais les administrateurs, il faut qu'il y en ait dans chaque spécialité, dans chaque domaine. Et puis, c'est des gens, du coup, qui interviennent presque tous, quasi quotidiennement, sur le site. Donc le prétexte, c'est les raisons de sécurité. Mais je crois que c'est une normalisation qui est attendue. Il y a une mise sous tutelle pour normaliser. La contrepartie qui est pas négative, c'est que le CNRS dit, on veut le conserver, on veut le prendre en main, couper avec l'éditeur complètement. Donc l'éditeur a mis quand même beaucoup d'argent pour réaliser tout ça.
Alors l'éditeur, on rappelle, ce sont les éditions de l'atelier.
Hein, couper complètement avec l'éditeur, en faire un pur produit CNRS, mais lui assurer la pérennité. Et on n'est pas... on est intéressé par cette... on est intéressé que dans 25 ans, on puisse encore consulter le Métron. Mais dans l'immédiat, les choses sont... à discuter, donc il va y avoir un petit texte qui va circuler et qu'on soumettra à des gens comme Bernard Bessa par exemple, mais son intervention déjà à l'Assemblée Générale donne l'orientation.
Oui, parce que ce qui me frappait, c'était que par exemple Jean Métron, même quand il a fait son dictionnaire, il n'était pas tellement soutenu par la Sorbonne à l'époque où il était à la Sorbonne. Et ensuite, alors je ne sais pas, Claude Pelletier, lorsque tu étais toi au CNRS, est-ce qu'ils t'ont beaucoup soutenu?
Oui, bon, quand
est-ce
même,
que tu travaillais, est-ce que tu travaillais? Oui, j'avais l'impression que tu faisais beaucoup de travail seul.
Oh, bah oui, enfin, c'est n'importe comment, c'est une passion. C'est comme quand tu es peintre, écrivain ou musicien, tu comptes pas tes heures. Voilà. Donc j'ai mené ça. C'est vrai, pendant 35 ans, là, avec beaucoup de dynamisme, que moi j'étais à la recherche de continuité, ce qui n'est pas si facile que ça, hein, de trouver des jeunes chercheurs, parce que les structures ont... ça a changé pour les carrières des chercheurs, travailler avec le Métron n'est pas forcément la bonne solution, il faut écrire dans les annales, il faut publier des livres, etc. On est dans des conditions un petit peu différentes, mais on est à la recherche de renouvellement, et on l'a parfois.
Alors Claude Pelletier, tu as annoncé lors de cette journée Métron, qu'il y aurait une direction paritaire avec Marie-Cécile Bouju, Rachel Mazui, Julien Chuseville et toi-même. Ouais. Donc vous serez quatre, c'est-à-dire qu'il y aura une direction.
Pour l'instant, c'est la direction actuelle, mais on est dans une situation tout à fait provisoire.
Alors, lorsque tu étais seul directeur, enfin après co-directeur avec Paul Boulan, tu travaillais beaucoup, et je crois que Annie Pentier, qui était aussi une enseignante maintenant à la retraite, pourra en témoigner. Est-ce qu'il travaillait beaucoup, Claude Pentier?
Ah oui, il faisait des doubles journées, hein, 15 heures par jour. Quand je partais en voyage, il ne partait pas, parce que le métro ne s'arrête pas tous les jours. Il y a beaucoup de mails qui arrivent, parce que dans les correspondants, il y a ceux qui ne mettent pas en ligne. Donc mettre en ligne, c'est non seulement recevoir un texte, mais le compléter, le corriger, le renvoyer à l'auteur, voilà, en lui demandant qu'il y ait plus de contexte, que sa biographie soit lisible pour un public large. Hein. Et puis ensuite, c'est mettre des mots-clés. Hein. Ces mots-clés peuvent être jusqu'à 30 mots-clés, pour faire
par
des
statistiques.
Par notice, donc famille politique, le département, le métier, la socio-professionnel, etc. Et tous ces mots-clés sont extrêmement importants. On en a créé au fur et à mesure, pour pouvoir ensuite faire des statistiques, faire des cartes, des pyramides des âges, des histogrammes, etc. Hein? Donc, quand on voit une biographie, on voit qu'une partie du travail. Et en plus, tous les jours, il y a des mails aussi de familles qui nous donnent des compléments, des photos, mais aussi il y a des publications qui nous permettent des livres, des masters, des thèses, qui nous permettent de compléter. Donc il faut aussi s'adresser à l'historien qui a écrit une thèse pour compléter ou écrire de nouvelles biographies, hein, bien sûr. Donc ce travail est extrêmement chronophage, hein, et peut rebuter certains, vu l'ampleur du travail. Hein. Donc, en effet, Claude a toujours fait le travail de deux personnes. Hein. Il dort pas beaucoup, donc ça lui permet de faire double. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai toujours été associée au Métron, hein, bien sûr. Hein, on a fait notre maîtrise. Notre maîtrise ensemble. Alors, en plus, après, j'ai été prof. Bien sûr, je me suis occupée de mes élèves. Hein, et puis, à la retraite, je me suis beaucoup investie depuis 2012, parce qu'en 2012, donc, avait été déjà lancé le dictionnaire des fusillés, hein, par Claude Pentier et Jean-Pierre Besse, hein, un grand programme soutenu d'ailleurs par des MPA depuis 2008. Et Jean-Pierre Besse est décédé brutalement à l'âge de 62 ans. Et comme l'édition de l'atelier nous avait demandé un dictionnaire papier des fusillés par condamnation, après condamnation, et que nous ne savions pas exactement quelle partie était, enfin, la proportion. Donc, il a fallu travailler double pour que ce livre existe en 2015, donc 4300 biographies. Et puis ensuite, on a élargi les catégories.
Il a eu beaucoup de succès,
en un an, il était épuisé. Hein. En effet, on nous a dit, ah ben, on dira plus de bêtises sur le nombre de fusillés après condamnation. Enfin, on a fait un énorme travail à partir des archives, bien sûr, toujours. Hein. Et puis ensuite, on a élargi les catégories, donc exécuté sommaire, mort sous la torture, ensuite les victimes de la libération. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 32 000 biographies sur le site, et presque tous les jours, j'y travaille, parce que je mets non seulement en ligne des biographies de correspondants, comme la Savoie, et moi-même, j'écris sur le Val-de-Marne, le Finistère, le Cher, enfin, différents départements.
Et tu écris, voilà. Annie, sur le Finistère, parce que tu connais bien le Finistère.
Oui, et puis, je suis bretonne d'origine par mon père. Voilà, et puis, quand il n'y a pas d'historien dans un département, bah, souvent, c'est Claude et moi. Par exemple, on a fait la Loire-Atlantique, on est allé à Nantes consulter les archives. On a fait une conférence au mois d'octobre dernier, qui a eu un beau succès, d'ailleurs. Donc, voilà, on fait avancer, et puis... Il y en a encore quelques milliers à écrire.
Alors, Annie Pentier, c'est toi aussi qui t'occupe quand vous faites beaucoup de déplacements, parce que là, je vois, vous êtes allé à Clermont, à Nantes, tu en as parlé, Brest, Bourges, Champigny, bon, là, c'est pas trop loin, Champigny, mais Clamecy, Beauvais, tous ces déplacements, c'est aussi pour présenter le dictionnaire des fusillés ou l'ensemble des dictionnaires?
À Clamecy, c'était le Salon de la Révolte, et c'était le film qui a été fait...
De la Résistance,
pardon. Oui. C'est le film qui a été fait sur le Métron. que Claude a présenté donc à Clamecy, hein, mais ça peut être pour un colloque, par exemple le Joint français à Saint-Brieuc, ou bien et puis avec les associations régionales du Métron. Alors là, c'est Claude surtout qui va voir les auteurs, les correspondants, hein, pour faire vivre nationalement le Métron dans toutes les régions, hein, c'est-à-dire l'Alsace, la Bretagne, Midi-Pyrénées, Alpes-de-Provence. Bourgogne.
Et quand vous vous déplacez comme ça, est-ce que justement il y a de nouvelles personnes qui viennent vous poser des questions? Est-ce que le Métron est connu partout maintenant? Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui le découvrent?
Il n'est jamais assez connu et il y a des gens qui le découvrent. Hein. Donc notre dernier, c'était à Clamecy et des gens disent non, on ne connaît pas.
Alors qu'il y a combien de volumes, Claude?
70 volumes. Mais
70 volumes.
Maintenant, c'est depuis surtout quelle date? Le site. Le site, c'est 100 000 consultations par mois.
Alors, là, c'est le site. Et puis, bon, on a abandonné complètement le papier.
Sauf pour le dictionnaire de la commune. Et dans l'avenir, on fera sans doute d'autres volumes papier spécialisés. Mais il n'y aura pas de volume alphabétique comme on faisait avant, des grandes séries alphabétiques, etc. L'économie du livre a beaucoup changé. Hein. Ça avançait par période, 12 volumes sur la période qui allait de 1940 à 1968. Bon, aujourd'hui, le site occupe quand même une grande partie de cette fonction. Et on a des fois des journées à 10 000 consultations, d'autres fois moins. Enfin bon, le mois dernier, puisque c'est les vrais chiffres, 100 000 consultations dans un mois. Alors là, on ne peut pas avoir une statistique très précise des milieux socio-professionnels qui consultent. On pense qu'il y a les étudiants qui, pour leurs travaux, etc., consultent beaucoup, les familles qui pensent avoir un nom, les curieux, les journalistes, parce que de temps en temps, on entend sur France Inter, le matin, quand ils considèrent le site, Askolovitch, par exemple, considère le site comme une source, comme un journal, hein, et il dit, vous pouvez consulter dans Le Monde la biographie de tel rugbyman qui était un militant du mouvement ouvrier, qui a marqué l'histoire du rugby, parce qu'il y a, voilà. Donc, il y a une reconnaissance, hein, qui est aujourd'hui très forte, beaucoup plus forte qu'à l'époque de Jean Métron, même si déjà, le Métron était prestigieux, hein, de son vivant, mais son lectorat était forcément limité aux bibliothèques, à un milieu, tandis que là, il est disponible, il est soumis à la réflexion, à la critique. Il y a des gens qui nous disent, il manque une telle information dans la biographie, est-ce que vous pourriez modifier, etc. Donc, et on aime. Dans le fond, Jean Métron, que tu as connu, il attendait ça, il disait c'est un premier, c'est les petits cailloux qu'on sème et la voie sera suivie, ou c'est un premier sillon. Enfin, il avait toujours des formules comme ça. Il pensait pas que ce qu'il publiait avait un caractère définitif.
Hein. Oui, d'ailleurs, Jean Métron m'avait même confié un travail, alors que j'étais pas historien. Et que quand j'étais allé le voir à Courbevoie, où il travaillait sur ses cahiers d'écoliers, il avait des dossiers. Il y avait un dossier du département du Var qui était très épais, parce que je crois qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Giraud et qui travaillait beaucoup.
Jacques Giraud.
Et puis il y avait un dossier des Basses-Alpes qui était très très fin. Et je lui dis, mais pourtant il y a eu aussi des militants dans les Basses-Alpes. Il m'a dit, tiens, prends le dossier et puis fais le travail.
Alors,
j'étais pas spécialiste, donc j'ai confié ça à des gens qui connaissaient là-bas autour de moi pour aider Jean Métron. Mmh. Et je crois que là, c'était justement très, très, très important.
Bon, la crise sanitaire, oui, Annie Pentier, le Covid, eh bien, nous avons rencontré des étudiants, notamment à Bordeaux. Une jeune fille qui était barman, qui sert un café, oui. Il nous a dit, heureusement qu'il y avait le Métron, les BU, les bibliothèques universitaires étaient fermées, et moi je faisais mon master, et je l'ai fait grâce au Métron, sinon je ne pouvais pas le faire. Donc il est de plus en plus connu et utilisé, hein. Et puis aussi le colloque qu'on a fait à Clermont-Ferrand sur mourir au maquis, mourir pour le maquis, avec des intervenants que nous ne connaissions pas, hein, et sur des thèmes nouveaux, hein, sur par exemple les services de santé dans les maquis, ou bien le problème de l'inhumation. Eh bien,
à partir de nos biographies, le plus possible.
Ces interventions, à chaque fois, donc, l'historien ou l'historienne disait, ou sociologue, disait, je l'ai fait à partir des biographies du métron. Donc, c'est une base très importante.
Et je crois qu'il faut préciser, certains le savent, il suffit de taper métron, d'aller sur le site, tout est en accès libre. Maintenant, c'est extraordinaire, parce que non seulement c'est la France, mais c'est aussi sur des pays étrangers.
10 pays étrangers.
10 pays étrangers. Et là, c'est une source énorme pour tous ceux qui travaillent sur le métron, enfin les étudiants, mais aussi les professeurs, mais aussi les journalistes, mais aussi, et puis même les individus hein, qui s'intéressent à leur famille. On va faire une petite pause musicale et on va essayer d'écouter un chanteur bien connu qui s'appelle Monsieur Léo Ferré. Chante le chant des partisans, puisque ça nous permettra d'introduire Gilles Alfonsi et son livre Sorti de l'ombre.
Tendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pactem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'historiens et d'écrivains sociologues. Donc, vous avez entendu Claude Pentier et Annie Pentier, qui a écrit beaucoup de notices hein, pour le métron. Combien tu disais, Annie?
1500
notices, bon. Alors, on a dit qu'il y en a 220 000, c'est ça?
225 000.
Bon. Alors, on va parler maintenant du livre de Gilles Alfonsi, qui s'appelle donc Sorti de l'ombre, Enquête sur des massacres ignorés de la division Das Reich, Tzigane, résistants, communistes. Alors, avant de donner la parole à Gilles Alfonsi, bon, d'abord, ce livre, ça a quand même du travail, hein, parce que j'ai vu, je l'ai lu. On dit que tous les journalistes ne lisent pas les livres. Bon,
je sais que dans cette émission, on lit les livres.
Oui. Et combien d'années de travail, là? Parce que c'est un énorme travail. Dans les recherches des archives, c'est énorme.
Là, j'ai passé à peu près 2 ans, mais 2 ans assez intenses, oui.
Et en même temps, dans beaucoup d'endroits en France, parce que, bon, on va en reparler, hein, c'est surtout sur une région bien précise, puisque justement cette division SS a fait beaucoup de dégâts dans une certaine région. Et puis, c'est Claude Pintier qui a préfacé le livre. Alors, Claude Pintier, nous approchons du 80e anniversaire de la Libération. Oui. Alors, c'est quand? C'est 1 an ou 2 ans?
C'est dans un an.
Et demi.
Mais justement, là, c'est sûr que c'est une période qui va attirer l'attention sur la guerre. On voit beaucoup de travaux se multiplier. Et nous, on est très actifs autour des fusillés. C'est pour ça que Gilles s'est tourné vers moi pour me demander un regard sur le livre. Et j'ai été tout de suite emballé. Je le suis encore plus quand on voit le livre publié. Parce qu'un de ses gros atouts, c'est d'avoir les documents. De mettre non seulement les documents, et là c'est fondamental. Et moi, c'est ce qui me. Bon, ça concerne donc 3 tueries qui se tiennent dans le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne, mais qui sont du coup bien connues. On voit tout le mécanisme, on voit la façon dont les Allemands sont renseignés. Il y a la thématique de la délation qui est absolument passionnante. Ça s'appuie sur un cahier fourni aux Allemands par des délateurs. Et là, il fait un travail très, très précis, là, comme le chien qui mord son os, il va jusqu'au bout, là, il assume qu'une chair. C'est ce qu'il faut faire. À la fois, il met le contexte plus général que j'ai. L'intérêt, c'est qu'il utilise tout ce qui est possible pour comprendre tous ces gens, parce qu'il y a un cas dramatique de pendus, hein, comprendre ces pendus, la sélection, etc. Quelles étaient les informations qu'avaient les Allemands, comment les choses se sont passées, quelle cruauté il y a derrière, mais qu'est-ce qui est visé par les Allemands en employant des méthodes aussi brutales que la pendaison. J'avais un petit peu en tête à ce moment-là, il y avait les mêmes événements en Ukraine, hein, une grande dureté des troupes, les viols, les violences directes, etc. Et que je me disais, bon, les Ukrainiens, ils vont être obligés d'écrire eux aussi cette histoire.
Ils
sont en train de la préparer. Et là, bon, il a fallu beaucoup de temps. C'est peut-être une des interrogations, peut-être une question qui sera à poser. Pourquoi tant de temps pour connaître vraiment la vérité sur ces massacres, notamment celui de Dune, qui est quand même le plus frappant. Mais derrière, il y a des interrogations qui sont sociopolitiques, professionnelles, parce qu'il y a eu une certaine influence du communisme dans cette ville. Est-ce que les gens qui sont mis sur la liste sont pour tel... Je ne vais pas donner la réponse, puisque c'est...
On va en parler avec Gilles Alphonse.
C'est Gilles qui va la donner,
il va
la
nous
réponse,
raconter tout ça. Mais je crois qu'effectivement, comme on parle de crimes de guerre, ouais. Actuellement, on en entend beaucoup parler avec la guerre en Ukraine. Bon, les crimes de guerre, pour nous, il n'y a pas de crimes de guerre, c'est la guerre qui est un crime, de toute façon. Pour
bon, mais dans la guerre qui est un crime, il y a des crimes particuliers,
voilà.
Qui, naturellement, pour les historiens, sont des objets d'observation qui doivent être minutieuses, ne pas tomber justement dans ce qui est formulé habituellement, qui est des fois formulé par des gens qui viennent des sensibilités de Vichy ou de sensibilités militaires ou etc. Donc faut pas être dupe, par exemple dire les victimes c'était des victimes innocentes. Bon, ça veut dire que les autres c'est des victimes criminelles, ceux qui ne sont pas le résistant. Alors il y a toute une graduation, c'est ce qui montre très très bien. Il y a une graduation entre la personne qui est prise complètement par hasard et le résistant. En réalité, il y a des gens qui ont quand même un petit peu à voir avec la résistance, ou qui sont réputés, etc. Enfin, c'est là toute la finesse qu'il apporte et qui est très importante. Il n'y a pas de victime innocente dans la guerre.
Absolument. Annie, tu as lu le livre de Gilles?
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses toi-même, avant de quitter le studio, parce que je sais que vous allez voir un spectacle.
Oui, oui.
Le spectacle de Qu'est-ce que vous allez voir comme spectacle?
Maxime Le Forestier chante Brassens.
Ah bon, voilà. Alors on va vous laisser partir parce que ça doit être un très bon spectacle.
Mais, j'avais suivi l'échange entre Claude et Gilles, bien sûr. Hein, donc je connaissais déjà l'histoire du cahier, de la délation. Et c'est un très beau livre parce qu'en plus, c'est vraiment une enquête. Hein, l'histoire, c'est des enquêtes. Hein, avec le contexte, bien sûr, et les documents. C'est un livre très illustré, hein, avec les reproductions des cahiers. Enfin, on est vraiment au cœur du sujet. On est dans l'histoire. Et le problème de la délation pendant la guerre. Si les Allemands ont fait tant de dégâts, l'armée allemande. Mais c'est parce que aussi il y avait un certain nombre de Français qui ont collaboré.
Hein,
et qui étaient collaborés à délation comme ici, mais quelquefois beaucoup plus, hein, puisque nous, Claude et moi, on a travaillé sur le Cher. Pierre Paoli, lui, portait l'habit, l'uniforme SS, hein, et il participait lui-même, il s'est vanté d'avoir participé à 300 arrestations. Hein, au petit matin, il allait avec les Allemands dans la voiture, et donc
aux tortures.
Hein, on l'appelait Satan, le gorille, enfin il avait plusieurs surnoms. Bon, il a été condamné à mort et exécuté en 1946. Il était parti en Allemagne, bien sûr, il avait suivi les troupes allemandes. Hein. Donc il y a tout cette problématique, hein, de la participation des Français, de l'aide des Français à la répression allemande.
Alors, je vous remercie de la présentation du livre de Gilles Alfonsi, Sorti de l'ombre. Je vais en parler avec lui. Et puis pour vous laisser partir, on va prendre une petite pause musicale. Est-ce qu'on pourrait passer la chanson de Léo Ferré qui s'appelle « Avec le temps ». Avec le temps de Léo Ferré. Et ça permettra d'aller écouter Le Forestier.
Ils ne l'ont pas, on va la chanter.
Voilà.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire. La nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Sa taille de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. Tranquille, on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on y vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps. Ah, tout va bien. avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous avons parlé du Métron avec Claude et Annie Pentier. Et maintenant, alors, nous allons parler avec Gilles Alfonsi de son livre Sortie de l'ombre, enquête sur des massacres ignorés de la division Das Reich. Et d'abord, on va peut-être faire mieux connaissance, Gilles Alfonsi, parce que je vois que vous êtes sociologue, vous avez été rédacteur en chef de la revue Combat contre le sida, c'est bien ça ?
Combat face au sida, oui.
Face au sida, pardon. Ah ouais. Et puis ensuite rédacteur du site Regard. Alors sur le site Regard, là j'ai relevé quelques articles quand même, mais Combat face au sida, c'est une revue qui existe toujours ?
Non, elle s'est arrêtée il y a quelques années, mais j'ai effectivement été rédacteur en chef pendant une dizaine d'années de cette revue, à la fois de lutte contre le sida, mais aussi qui travaillait sur l'ensemble des questions de société et qui avait une approche très large en fait de... des problématiques liées à la santé, voilà, on a beaucoup travaillé sur les toxicomanies, sur la prostitution, et à l'époque, ça m'avait donné l'occasion d'ailleurs de venir de temps en temps, non pas dans cette émission, mais sur Radio Libertaire.
Sur des émissions spécifiques sur la santé.
C'est ça, oui.
Oui.
Voilà.
Et sur Regard, là, justement, j'ai vu que vous parlez aussi un peu des problèmes de santé. Vous avez parlé du Covid.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'elle a à voir, cette pandémie, par rapport à ce qui se passe dans le monde ?
Moi, je suis un peu un touche-à-tout, donc effectivement, je travaille sur plein de sujets différents, et c'est vrai que la question de la santé, notamment la question du pouvoir médical, ou aussi la façon dont les institutions et l'État gèrent les pandémies, ou prétendent... faire face aux pandémies en par la contrainte, etc., m'intéresse beaucoup. Donc la question du pouvoir médical, la question du rôle des usagers de la santé, la question de la citoyenneté et de la santé me passionne depuis de nombreuses années. Et à l'occasion de la pandémie du Covid, en fait, j'ai pu un peu rebondir par rapport à des choses que j'avais déjà défendues avec d'autres associatifs et d'autres militants de lutte contre le sida dans les années précédentes. Donc effectivement, j'ai commis sur le site regard.fr, hein, auquel je collabore régulièrement, que ce soit sur ces sujets-là ou sur d'autres sujets, j'ai commis une série d'articles sur la manière dont on a affronté cette pandémie. Je crois qu'elle est très critiquable, en fait, cette manière dont la pandémie a été affrontée par l'État et dont la société française a été maltraitée, finalement, dans cette affaire-là. Voilà.
Elle a été maltraitée et elle continue à être maltraitée.
Et ça continue, bien sûr. Oui, ouais, tout à fait.
Alors, sur Regard, juste un mot sur Regard. Regard, c'était donc un mensuel qui a été créé il y a très longtemps, hein, en 1932, j'ai vérifié, et puis qui s'est arrêté, qui a repris plusieurs fois. C'est un site, disons, de gauche. Hein. Donc vous vous situez plutôt dans cette mouvance de la gauche.
Oui, moi je dirais je suis communiste, quoi. Voilà, je suis pas membre du Parti communiste, mais je suis communiste non seulement de cœur, mais d'engagement, quoi. Voilà, donc je me définis comme un partisan de l'émancipation. Voilà, les termes qui me sont chers, c'est ceux-là. Regard.fr, c'est à la fois ça, et puis c'est aussi d'autres courants de la gauche d'alternative, ou de la gauche la plus engagée, de la gauche radicale, si on veut. C'est un peu une passerelle entre différents courants. Voilà, donc je me retrouve bien dans un média qui fait passerelle, en fait, entre ces différentes sensibilités, ces différents courants, et qui est assez ouvert à une diversité d'apports.
Alors, Gilles Alfonsi, maintenant vous allez me dire comment et pourquoi vous vous êtes intéressé justement aux problèmes que vous traitez dans votre livre « Sortie de l'ombre ». Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail qui est un travail important et qui vient d'être publié dans une, donc disponible maintenant, hein ?
Oui, le livre est en librairie d'ores et déjà. En fait, j'ai débuté ce travail en m'interrogeant sur un homme qui s'appelle Louis Dufour, qui est un forgeron d'un petit village de Dunes en Tarn-et-Garonne. Et en fait, il se trouve que le petit-fils de ce Louis Dufour est un ami. J'ai voulu savoir qui était cet homme qui a été pendu le 23 juin 1944 sur la place du village de Dunes en Tarn-et-Garonne. Voilà quel a été le point de départ finalement de ce travail, et bien sûr le sujet s'est nettement élargi au fur et à mesure du temps, mais voilà quelqu'un qui était forgeron du village, qui a fait la guerre, qui a été prisonnier de guerre pendant 2 ans et demi dans un camp en Allemagne, qui est revenu début 1943 dans le village de Dunes, qui a repris ses activités de forgeron, et puis le 23 juin 44 donc il est pendu avec d'autres habitants sur la place du village. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à quel point c'est important cette histoire de biographie, en fait, qu'on abordait un petit peu tout à l'heure avec nos amis du Métron, avec les Bentiers, parce que en fait le travail sur la biographie, souvent c'est vraiment un moyen très utile pour si on a une réflexion en réseau, si on a une réflexion qui se contente pas de parler de la personne, mais de la personne dans son monde, la personne dans ses interactions sociales, etc. Ben, on va très vite être sur des sujets, comme j'ai été moi-même en parlant de Louis Dufour, en m'intéressant à sa biographie, on va très vite finalement parler de l'actualité nationale et internationale, on va très vite parler des institutions, du rapport aux institutions, on va très vite parler des rapports sociaux. Voilà, c'est peut-être aussi ma formation. Je suis pas tellement sociologue, je suis plutôt diplômé d'études approfondies en sociologie. En fait, j'ai pas cette prétention ni d'être historien ni d'être sociologue, mais en tout cas, je suis en réflexion sur l'homme et son monde, quoi, on va dire. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le Métron, ça, je pense que c'est important d'exprimer à quel point le Métron est un repère et un phare un peu pour la réflexion non seulement sur la guerre, mais sur notamment sur la Seconde Guerre mondiale et sur ses suites aussi, et puis sur d'autres aspects encore. Mais en tirant la question de la biographie, en s'intéressant aux biographies des personnes, bah finalement on va tirer plein de choses, et c'est le point de départ, en fait, de mon livre. Et puis en cheminant, ce Louis Dufour, il a été victime d'un massacre collectif, je me suis intéressé à ce massacre collectif, et puis ce même jour, en fait, la même unité allemande de la division d'Eisreich a commis, en fait, 3 exactions successives, et donc je me suis intéressé aux différentes exactions commises ce jour-là par cette division d'Eisreich et par cette unité venue de Valence d'Agen. Voilà.
Alors, en partant justement d'un personnage, vous avez étendu à toute une histoire, disons, de la Seconde Guerre mondiale. On va le resituer, hein, on va resituer par rapport à la période, disons. La Seconde Guerre mondiale, c'est la fin, un peu, de la guerre. Donc, on va refaire... Alors, ça se passe dans le Garonnais, c'est-à-dire dans la région, justement, du Tarn-et-Garonne, et le long de cette Garonne. Vous dites que pourquoi les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, voulaient absolument que cette voie de passage soit maintenue. Alors vous allez nous dire pourquoi, Gilles Alfonsi. Et ensuite, un peu la chronologie pour arriver jusqu'à justement ces massacres. On parle bien sûr toujours, alors on rappelle le massacre d'Oradour, hein, puisque vous allez nous en parler aussi, mais il y a tous les autres massacres qui ont eu lieu et qu'on a oubliés. Parce que j'ai l'impression que si votre livre, c'était contre l'oubli. Parce que vous nous dites, sortis de l'ombre, c'est, on les a sortis de l'ombre, tous ces gens.
Absolument. En fait, mon idée, ça a été d'abord de situer mon travail dans la fin de la période de l'occupation allemande. Le 23 juin 1944, on est en amont de la libération, bien sûr. On est juste après le débarquement. Mais on est, disons, dans la dernière phase de l'occupation allemande avant la libération. Donc, mettons-nous en tête d'ores et déjà qu'à ce moment-là, le rapport de force entre les Alliés et le Reich, il a déjà changé. Bien sûr, il y a eu Stalingrad, mais ça, c'est le symbole le plus puissant. Et voilà. Mais sur le front de l'Est, le rapport de force est inversé d'ores et déjà. Et dès début 1943, finalement, commence à être connue l'idée... Que le Reich finira par perdre la guerre. Donc on est dans ce moment-là, on est dans un moment aussi où en 1943 la résistance s'est considérablement fortifiée en France, elle a développé ses activités, c'est vrai dans tout le sud-ouest et pas seulement dans le sud-ouest, mais dans le sud-ouest où j'ai mené mes recherches, c'est particulièrement vrai, une résistance plus active qui multiplie les actions violentes, qui attaque les forces collaborationnistes en faisant un certain nombre de victimes, qui attaque de plus en plus souvent aussi les forces allemandes, qui bénéficient de parachutage d'armes. Donc c'est la résistance est devenue une force de plus en plus qui s'impose, face à laquelle d'ailleurs les Allemands se disent en fait, on ne peut plus simplement se contenter de faire des opérations de police, il va falloir qu'on fasse des opérations militaires.
Et c'est ça, il passe justement le maintien de l'ordre, si on peut dire, à l'armée.
Voilà, de plus en plus. Alors, bien sûr, la Gestapo va continuer de jouer son rôle. La Gestapo, c'est la police allemande. Elle va continuer son rôle mortifère jusqu'à la libération. Mais en parallèle de ça, sont missionnées les unités de la division d'Eisreich pour rétablir l'ordre. Et notamment à partir de début 1944, ça va être vraiment le grand sujet. Ça va être, il y a trois enjeux en fait pour la présence de la division d'Eisreich dans le sud-ouest.
Alors elle n'était pas dans le sud-ouest au départ.
Elle était sur le front de l'est. Elle était sur le front de l'est. Et qu'est-ce qui arrive à partir de début 1944, elle est chargée en France d'intervenir pour rétablir l'ordre. Et il y a trois enjeux qui sont les siens. Il y a trois objectifs. Il y a la question de la continuité territoriale entre la côte atlantique et la côte méditerranéenne. Les Allemands ont besoin de maintenir cette continuité territoriale entre les deux côtes. Pourquoi ? Parce que demain, pour eux, on n'est pas encore au 6 juin 1944, on ne sait pas où vont avoir lieu les débarquements. Et donc, pour eux, il faut maintenir la continuité territoriale. Ça, c'est un premier enjeu. Et la division d'Eisreich, elle, n'est pas chargée de faire face aux débarquements eux-mêmes. Elle est à l'intérieur des terres pour maintenir cette continuité territoriale. Et ça, du coup, on est en plein dans la région finalement qui est entre Bordeaux et puis Toulouse et Marseille. Et sur ce chemin-là, effectivement, il y a la Garonne, bien sûr, et puis il y a Agen, il y a Montauban, il y a Valence d'Agen, et si je zoome un petit peu, il y a mes trois villages du Garonnais, les trois villages sur lesquels j'ai travaillé. La deuxième mission, en fait, de ces troupes de la division d'Eisreich, c'est d'anéantir les résistants. C'est vraiment de faire des opérations de représailles contre la résistance, parce que cette résistance est de plus en plus offensive, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a un troisième objectif de la division d'Eisreich, c'est de terroriser la population. Et pourquoi faut-il terroriser la population à ce moment-là? Il faut la terroriser pour qu'elle se
détache un peu de la résistance.
Qu'elle se détache de la résistance et puis qu'elle ne se soulève pas. Parce que finalement, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir des grands soulèvements populaires de la population du Sud-Ouest en faveur et avec la résistance? Est-ce que la masse de la population va finalement fusionner avec la résistance? Et là, ça poserait un sacré problème aux Allemands, et qui n'est et donc pas simplement un problème policier. Et donc là, on a la question des mises en scène qui va intervenir dans notre affaire, c'est-à-dire que pour terroriser la population, il faut, pour les Allemands, pour la division d'Eisreich, mettre en scène des opérations de représailles qui sont d'une très très grande violence, qui ont lieu aux yeux de toutes et tous, et qui peuvent impliquer, y compris des femmes et des enfants. Voilà, on a ces trois objectifs-là de la division d'ASRH à ce moment-là. Et puis alors là, donc, je chemine à partir de Louis Dufour, de cette personne-là tuée le 23 juin 1944. Je regarde un peu ce qu'il en est donc, de l'état des forces en présence dans la région. Et là, je suis confronté à un manque, à un déficit de réflexion, qui est que, pour la majorité des gens que j'ai contactés à ce moment-là, pour la majorité des récits qui sont faits de cette période, qu'est-ce qui se passe après le 6 juin 1944 ? Après le 6 juin 1944, tout le monde sait qu'il y a Tulle et il y a Oradour. Et surtout, tout le monde dit qu'il y a Oradour sur Glane. Et effectivement, on comprend pourquoi Tulle et ses 99 pendus, Oradour avec ses 643 victimes. Alors, je dis le nombre de 643 parce qu'on continue aujourd'hui d'identifier des victimes. On aurait dit 642 il y a un an, mais une 643e victime a été identifiée il y a peu de temps. Donc voilà, évidemment, vu l'ampleur de ces massacres-là, et aussi vu le récit national qui en a été fait par la suite, c'est-à-dire la volonté notamment du général de Gaulle de qu'à travers Oradour s'exprime toute la mise en cause de la cruauté allemande. Donc la cruauté allemande, elle s'est exprimée finalement aux yeux, dans le récit national, au travers d'Oradour sur Glane. Mais alors du coup, il y a une croyance qui est que à partir du 6 juin, du débarquement, on a Tulle et Oradour le 9 et le 10 juin 1944. Et puis ensuite, la division d'ASRH serait partie tout entière sur le front de Normandie, où elle aurait affronté, bien sûr, les Alliés et elle aurait dû reculer, puisque de nombreux soldats de la division d'ASRH y ont été abattus. Le problème de ce récit-là, c'est qu'il occulte un constat qu'on peut faire très simplement en regardant quelques documents allemands qui sont aujourd'hui accessibles dans les archives militaires de Vincennes, par exemple, mais qu'on retrouve à d'autres endroits sous d'autres formes. Le problème, c'est qu'on occulte à travers ce récit le fait que la moitié de la division d'ASRH est restée dans les départements du Sud-Ouest, en particulier en Tarn-et-Garonne, un petit peu en Lot-et-Garonne et en Haute-Garonne, bien au-delà du 6 juin, bien au-delà d'Oradour, et dans les semaines suivantes, et jusqu'à fin juillet 1944. En fait, 8610 soldats sur environ 15 ou 16 000 de la division d'ASRH sont restés dans ces départements-là. Et ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais finalement, du coup, dans le récit de ce qui s'est passé, si on demande à quelqu'un de faire une synthèse, mais la division d'ASRH, c'est quoi pour toi ? Bah, la personne va dire, bah, pour moi, la d'ASRH, ils étaient dans le sud, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés sur le front Normandie, et en passant, ils ont fait le massacre de Tulle et celui d'Oradour sur Glane. C'est une part de vérité évidente, mais une bonne partie des unités de la division d'ASRH étaient restées dans le sud-ouest avec les missions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, ils sont notamment des mises en scène collectives extrêmement violentes, extrêmement radicales. Et puis, l'affaire de Saint-Sixte, dont on parlera certainement tout à l'heure.
Oui, alors on parle de 125 villes et villages qui sont concernés, de 1441 morts recensés, dont 443 femmes, 176 enfants. Bon, ça, c'est des chiffres que j'ai pris dans votre livre, Gilles Alfonsi, dans votre livre « Sortie de l'ombre », qui est justement avec des chiffres extrêmement précis, surtout sur des documents qui sont reproduits. C'est-à-dire qu'on voit les documents, les lettres, les rapports. Justement, comment, après ces villages, il y a eu des atrocités qui ont continué. Alors, on va revenir sur Dune quand même, parce que à Dune, dans ce village, bon, il y a eu justement celui dont vous nous avez parlé, Louis Dufour, mais il y en a eu bien d'autres. Alors, dans ce village, qu'est-ce qui caractérisait ce village ? Pourquoi ces Allemands s'en sont pris, par exemple, aux gens de ce village ?
En fait, c'est bien sûr la question qui m'est venue, pourquoi Louis Dufour et ses proches, ses amis, des habitants, ses voisins, dans ce tout petit village de 985 habitants avant la guerre, donc on est vraiment... Voilà. On est dans le Garonnais, comme vous l'avez dit, on n'est pas très loin de la Garonne, on est à la jonction du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et du Gers. voilà où on est précisément. Et c'est pas neutre dans notre affaire, le fait d'être à l'intersection finalement de ces trois départements. Je vous dirai un peu plus tard pourquoi j'ai ce regard-là sur cette spécificité géographique. Donc on est à cheval dans des petits villages qui comptent quelques centaines d'habitants. Je me suis intéressé à l'histoire du village de Dunes parce que d'abord j'ai eu la curiosité de découvrir un document qui avait été publié à l'occasion du cinquantenaire de la Libération. À l'occasion du cinquantenaire de la Libération a été publié un document qui était censé être le cahier de dénonciation des résistants de Dunes, qui a finalement été le socle à partir duquel a eu lieu l'opération de l'unité allemande. L'opération d'unité allemande a eu lieu parce qu'il y a eu un cahier de dénonciation, mais j'avais remarqué très vite que ces pages du cahier de dénonciation n'avaient jamais été analysées, n'avaient jamais été publiées intégralement d'ailleurs, parce qu'en fait, un recopiage en avait été fait, une reproduction partielle, mais curieusement, un certain nombre de pages manquaient, etc. Et donc, je me suis mis en recherche finalement de ce cahier. Et découvrant ce cahier finalement aux archives départementales du Tarn-et-Garonne, finalement il est accessible à tous, hein, n'importe qui peut aller dans ce service
public.
Dans
les archives, on peut demander et le voir.
Vous allez aux archives départementales du Tarn-et-Garonne, comme vous allez dans l'ensemble des services d'archives en France, vous avez c'est des fonctionnaires qui sont là pour vous aider dans vos recherches et qui rendent accessible à titre gratuit sous réserve simplement de s'inscrire comme lecteur, et vous pouvez accéder à ces documents dont ce document là qui est donc le cahier de dénonciation des habitants de Dunes. Et alors je lis ce cahier et je constate l'occurrence d'un certain nombre d'expressions, et alors je constate qu'à Dunes, sur les 56 familles qui sont dénoncées, donc dans un village de 985 habitants, c'est énorme, parmi les 56 familles qui sont dénoncées, il y a 24 fois communistes, et puis il y a 24 fois contre les Allemands, et puis il y a plusieurs fois le fait que des gens sont rentrés du maquis. Et là je me suis posé la question, mais pourquoi en fait est-ce que finalement la dénonciatrice, elle avait un espèce de fantasme anticommuniste, et puis elle a voulu dénoncer les communistes, mais sans forcément que les gens soient communistes finalement. Ou est-ce que finalement il y avait un fond de vérité, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose qui correspondait à la réalité politique de ce village de Dunes, dans un département, le Tarn-et-Garonne, qui n'est pas un département à influence communiste forte, hein, c'était pas le cas avant la guerre. Et là, j'ai gratté le sujet, du coup, et j'ai pu retrouver des documents, c'était un peu, j'appelle ça un jackpot archivistique, parce que je suis tombé sur plein de documents qui montrent que ce petit village faisait un petit peu exception dans cette zone du Tarn-et-Garonne. C'était un village dans lequel un militantisme communiste s'était affirmé pendant de nombreuses années, avant la guerre. C'est un village dans lequel un élu municipal a été déchu de son mandat comme membre du Parti communiste en 1941. Et puis d'autres aspects m'ont montré que ce village faisait l'objet d'une surveillance particulière des autorités françaises bien avant la guerre, et pendant la guerre, et au début de la guerre aussi. Et puis par la suite, toute la municipalité, qui était une municipalité Front populaire, qui réunissait les radicaux socialistes, les communistes, et puis les socialistes, cette municipalité avait été virée et remplacée par ce qu'on appelait à l'époque une délégation spéciale. Voilà. Donc j'ai travaillé sur la politisation de ce village, ça constituait un élargissement du coup de ma réflexion, de mon travail et tout, et j'ai pu voir à quel point ce village était marqué par un communisme là, très localisé, hein, c'est vrai, voilà, mais aussi très présent. Et finalement, voilà, le cahier de dénonciation que j'ai retrouvé et que je publie dans le livre.
Alors avant-guerre, excusez-moi, Gilles Alfonsi, j'ai lu que cette tendance, disons, de gauche, communiste de gauche, avait déjà été dénoncée par le curé Henri Bozoul, c'est-à-dire que, disons, le clergé avait déjà dénoncé tout ce qui se passait, disons, dans ce village. Il y avait quand même une tradition de délation, si on peut dire, et de dénonciation.
Oui, là, il y a un curé de Dunes, et un curé de Dunes que j'ai découvert au fur et à mesure des mois passants et dans mes recherches, qui est un curé militant, hein, qui est un curé très, très radical, très, c'est un curé radicalisé, en fait, celui-là. C'est quelqu'un qui dénonce les communistes, qui pense qu'il est en terre de mission face aux libres penseurs, face aux communistes. Voilà. Et effectivement, les communistes locaux le lui rendent bien. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une hostilité, enfin, d'une bonne partie de la population à l'égard de ce curé. Et puis, le curé va prendre fait et cause pour les Allemands au cours de la guerre. Donc, ça va sans doute provoquer aussi des conflits encore plus radicaux. Voilà. C'est un curé qui est particulièrement militant dans cette logique collaborationniste et qui ira jusqu'à réunir dans son presbytère des habitants pour faire l'éloge des Allemands et du génie allemand. Donc, on est là dans un cas quand même très, très extrême d'engagement pro-allemand, finalement, d'un curé de village.
Et alors, ce cahier de dénonciation, il y a des noms, il y a des personnes qui l'ont fait. C'est Carmen Sopetti. Donc, on a su, après, les noms qui avaient fait ce cahier. Et puis, Marie Bodeira.
Baudoira,
oui. Baudoira. Mmh. Peut-être qu'elles allaient à l'église, justement, non? On ne sait pas.
Oui, si, on sait. Une des deux fréquentait l'église régulièrement, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct ou pas? Ça, c'est difficile de le dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, j'ai pu, à travers mon enquête, retrouver des documents que je ne pensais pas exister, puisque le cahier de dénonciation, c'était un document incroyable. J'ai retrouvé aussi le brouillon du cahier de dénonciation.
Alors, je dois dire qu'il est publié entièrement dans votre livre.
Il est publié dans le livre. Moi, j'ai fait le choix, finalement, de tout publier. Hein. Je publie les pièces majeures, en fait, de ce travail. Je ne donne pas les noms pour le plaisir de les donner. Je les donne par souci de rigueur. Je suis en train d'établir des faits historiques. On est 80 ans presque après les faits. Et aujourd'hui, il faut tout dire. Et ce travail de mémoire, ce travail n'a pas été fait. Je ne parle pas de devoir de mémoire, mais de travail sur la mémoire de ce massacre, sur ses causes, sur les responsabilités, n'a pas été fait. Même si au niveau local, bien sûr, on continue chaque année de rendre hommage aux victimes, etc. Mais tout un pan de la mémoire a été occulté, notamment le fait que ceux qui ont été pendus sur la place du village, après appel de leur nom, sur la base du cahier de dénonciation, étaient des résistants et étaient de communistes, les plus souvent. Et ça n'a pas été dit au profit de la rhétorique qu'évoquait d'ailleurs Claude Pénier tout à l'heure, la rhétorique des innocentes victimes. Hein, on disait, oh là là, les pauvres villageois, certains ont été pendus, les Allemands, qu'est-ce qu'ils sont méchants, etc. Et on parle d'un cahier de dénonciation, on ne fait pas le rapport entre le cahier de dénonciation qui dénonce des communistes et des résistants et le fait que les personnes ont été pendues. Or, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois considérer que ce petit village était un village protestataire qui a été réprimé à la suite d'une dénonciation de personnes qui sont françaises. Beaucoup de gens ont insisté pour dire que c'était des Italiennes, mais c'était des gens qui avaient acquis la nationalité française. Et c'est sur la base de ce cahier qu'a eu lieu l'opération allemande. Et si ce cahier de dénonciation n'avait pas existé, cette opération de représailles n'aurait pas été possible. C'est ça qui
alors on va la décrire un peu, cette opération de représailles. Ça s'est passé comment? Les Allemands arrivent dans le village, ils font l'appel parce qu'ils ont déjà une liste de noms.
Oui, ils ont le cahier qu'ils ont dactylographié par eux-mêmes.
Ils font sortir les gens sur la place.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe après?
Alors, ils ont une technique, hein, c'est donc ils arrivent dans le village, ils enserrent le village à travers les différentes routes et certains arrivent par les champs. Effectivement, ils convoquent tous les hommes du village sur la place centrale, près de la mairie. Ils font l'appel et puis ensuite c'est la pendaison avec une pendaison successive des personnes. Donc 11 personnes ont été pendues, trois autres ont été fusillées, un a été abattu parce qu'il a tenté de s'enfuir, deux autres ont été abattus soit dans un champ, soit dans un bois. Donc il y a eu 14 victimes finalement à Dunes ce jour-là. Et cette mise en scène collective de pendaison, c'est quelque chose qui fut pas courant pour le coup. Hein. C'est important
parce qu'en France, ça se pratiquait pas.
En fait, on a la grande pendaison de Tulle, oui, qui est connue, 99 personnes pendues sur l'artère principale de la ville de Tulle. Donc ça, c'est un moment important. Mais c'est vrai que les pendaisons collectives, il y a eu des pendaisons pendant la Seconde Guerre mondiale et la division d'Asreich et la Wehrmacht ont pendu, mais plutôt des individus isolés que des collectifs. Et là, en l'occurrence, on a vraiment un massacre collectif, ce qui montre vraiment la volonté là de faire peur, hein, de terroriser la population. Hein. Finalement, on est à la fois dans l'idée d'anéantir les résistants ou les communistes, mais on est surtout dans une mise en scène qui est un message destiné à l'ensemble du Garonnais, finalement.
C'est ça, Louis Dufaux faisait partie de l'armée secrète.
Oui,
Louis Dufaux. C'est-à-dire, l'armée secrète, c'était ce qui était dirigé par De Gaulle.
Oui, alors localement, c'est plus compliqué que ça, c'est parce que ça associait un peu les gaullistes et les communistes là, dans la 13e compagnie de l'armée secrète du Tarn-et-Garonne. Il y a effectivement deux organisations résistantes qui s'étaient structurées en 1943 dans le village et alentour. Il y avait le corps Franc-Pommiès et puis il y avait cette compagnie de l'armée secrète. C'était deux organisations, mais qui avaient plutôt des bonnes relations, hein, contrairement à ce qu'on croit souvent. On croit que les résistants se battaient forcément entre eux et se détestaient, etc. En réalité, il y avait beaucoup de liens familiaux entre les membres de part et d'autre. Et donc, il y avait plutôt une assez bonne collaboration, finalement, au bon sens du terme, entre ces deux organisations de résistance. Mais Louis Dufour était impliqué. Il n'était pas, c'était pas un chef résistant. Il avait une implication réelle. Il était allé au maquis, mais faute d'armes, les hommes étaient rentrés du maquis à leur maison. Mais il avait participé à plusieurs réunions secrètes. Il avait fait du recrutement, notamment.
Alors, on va faire une petite pause musicale encore, parce qu'on va parler bientôt des tziganes, parce que c'est aussi intéressant, vous en parlez, vous, dans votre... on va écouter une chanson de Léo Ferré, justement, le chant des tziganes. les tziganes.
Ils viennent du fond des temps, allant et puis revenant. Les tziganes. Ce sont nos parents anciens, les Indo-Européens. Les tziganes. Cheval maigre et chien perdu dans la nuit bleue. Quand je passe, je n'ai pas peur de... Du lait noir comme l'été, quand le soleil m'a brûlé. Oh tziganes. Tu fais des paniers d'osier pour avoir un peu d'osier. Oh tziganes. Le temps t'a allé le teint de cuivre et d'or. Le soleil est jaloux quand tu sors. Ils ont des châteaux roulants, quatre roues me blés devant. Les tziganes. Ils vont traînant mon destin dans les lignes de ma main. Les tziganes. Le bonheur, c'est un chagrin qu'on a manqué. Aussi, je cours pour le rattraper. Tu marches depuis des temps, la route roulant devant. Oh tziganes. Quelle faute as-tu commis pour devoir bouger ainsi? Oh tziganes. Je ferai n'importe quoi pour m'en aller. Oh tziganes, prête-moi tes péchés.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes en compagnie de Gilles Alfonsi qui nous parle de son livre « Sorti de l'ombre », un livre donc essentiellement sur les assassinats de la division d'Aizrach en 1944. Alors, on a parlé justement des massacres qui ont eu lieu et aussi de cette fameuse délation. Alors, cette délation, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait, bon, bien sûr, un conflit entre les nazis et les alliés? À cette période de 1944, il faut dire que déjà le débarquement en Normandie avait eu lieu le 6 juin, et donc c'était la suite, mais ça avait créé aussi en France presque une guerre civile, c'est-à-dire entre les gens qui collaboraient avec les Allemands et puis ceux qui résistaient à l'occupation allemande. Est-ce qu'on peut parler justement carrément presque d'une guerre civile ?
Moi, je pense que quand le 6 juin ou le 11 juin 1944, dans ce petit village de Dunes dont nous avons parlé, les résistants barrent les routes et occupent l'espace public, contrôlent les collaborateurs et, entre guillemets, font la loi, il y a une sorte, on peut dire qu'il y a interruption de la normalité institutionnelle. Et là, il y a une contestation du pouvoir. Alors, c'est local, c'est ponctuel, ça dure quelques heures, ensuite ça rechange dans l'autre sens, etc. Mais en tout cas, à travers cet exemple-là, ou à travers, de toute façon, les affrontements armés qui ont eu lieu quelques jours auparavant dans des villages voisins, etc., oui, il y a des éléments qui ressemblent à une guerre civile. Après, après c'est un débat qui reste nécessaire, qui reste ouvert, de dire si, globalement, on peut parler... au moins dans certaines régions de guerre civile, voilà.
Alors, à la Libération, bien sûr que les familles Sopetti et Baudouara ont été punies, si on peut dire. Hein. Elles ont été... on a exécuté ces personnes. Donc, c'était ce qu'on appelait l'épuration spontanée, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu la fin de la guerre, bien sûr, il y a eu des règlements de compte, quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est... la justice qui aurait dû se mettre en route, et encore jusqu'à aujourd'hui. Cette justice, justement, c'est intéressant, vous avez toute une partie de votre livre qui en parle, que vous appelez presque l'injustice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, après la libération, sachant qu'il y a eu plusieurs lois d'amnistie pour tous ces gens?
Oui, il y a effectivement deux phases. Il y a une première phase qui est plutôt... un petit peu avant et un tout petit peu après la libération, qui est une phase où les collaboratrices sont arrêtées. Elles font l'objet d'un ordre d'exécution de la part des FFI du Tarn-et-Garonne, et effectivement, arrêtées, interrogées, ayant reconnu les faits de délation, elles sont exécutées sur la place du village de Dunes le 2 septembre 1944, dans une mise en scène qui est sordide, qui est une mise en scène, on leur fait parcourir les villages que la division a empruntés, des milliers d'habitants de tout le Garonnais qui sont présents, parfois venus de très loin, beaucoup de femmes, et puis il y a lecture du cahier de dénonciation, et puis on fait valider leur exécution par la foule. Elles sont exécutées, mal exécutées, puisque les résistants, comme on le sait, ne sont pas des professionnels de la pendaison. Elles sont pendues, mais mal pendues. Elles ne sont pas mortes, et du coup, elles sont finalement mitraillées à travers les bières dans lesquelles leurs corps sont... Voilà, donc voilà, c'est pas le côté le plus noble, on va dire, de ce qu'on peut penser à ce propos. C'est quelque chose d'assez glauque. Mais effectivement, ça fait partie de la réalité que j'ai décrite et que oui, j'ai intégrée, et je publie l'ordre d'exécution qui d'ailleurs concerne ces femmes et aussi leurs familles. Les familles ne seront pas exécutées, la jeune fille qui a déposé le cahier de dénonciation à la commandanture de Valence d'Agen ne sera pas exécutée, mais l'ordre d'exécution concerne les familles et cette petite fille. C'est quand même troublant, enfin c'est quand même choquant au regard de l'histoire qui a couru. On ne peut pas non plus juger aujourd'hui comme on aurait apprécié les choses à l'époque, mais enfin, c'est quelque chose de choquant. Et puis alors, plus tard, effectivement, il y a la question des poursuites et des tergiversations de la justice française, de l'État français, de la mansuétude à l'égard à la fois des collaborateurs et des Allemands coupables de crimes de guerre. Et puis, il y a ces lois d'amnistie entre 51, 52, 53. Finalement, il y a des gens qui sont poursuivis, peu, Beaucoup de gens échappent à la justice, et puis il y a ceux qui sont poursuivis et qui sont mollement poursuivis, et puis souvent amnistiés, et c'est le cas dans notre affaire, puisque la seule personne, le seul sous-officier qui est accusé dans l'affaire des ondes de dunes, finalement condamné à 20 ans de travaux forcés, et puis finalement il est amnistié un an plus tard. C'est la réconciliation franco-allemande, le nouvel ennemi à l'époque c'est l'armée rouge, et donc tout le monde passe à autre chose, et puis les familles aussi, la mémoire des familles s'est un peu repliée, et du coup effectivement le temps n'est plus à enquêter sur la dénonciation. C'est pour ça qu'on peut faire aujourd'hui, je pense, un travail nouveau sur ces enjeux de délation qui sont quand même très, très pesants et très importants, qui n'étaient peut-être pas possibles, en tout cas juste après la guerre. Voilà.
Mais quand même, la division d'Astreich aussi, on arrive presque à des non-lieux, des acquittements. Je vois un acquittement en 1952, donc c'est bien après. Donc ces jugements traînent. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces crimes de guerre ? Parce qu'aujourd'hui, bon, on va revenir à l'Ukraine, où on nous parle de crimes de guerre, où on nous parle de gens qui prennent des photos, qui des analyses, ils font ça très très précisément. Mais est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, parce que quand on voit le résultat là de la justice après, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, là, je vois, effectivement, on a parlé tout à l'heure des tziganes, on a écouté la chanson sur les tziganes. C'est intéressant, justement, ce que vous avez dit aussi, l'extermination des tziganes à Saint-Sixte. Parce qu'il y a eu aussi, là, les tziganes.
Et oui, et le déni de justice, il ne concerne pas simplement les pendus et les fusillés de dunes, il concerne aussi le massacre de tziganes qui a eu lieu le même jour par la même unité de Valence d'Agen. En fait, voilà, quand l'unité de Valence d'Agen se rend pour l'opération de représailles à Dunes, elle passe, il est 5h du matin, elle passe par un petit village qui s'appelle Saint-Sixte. Là, on est dans le Lot-et-Garonne, on n'est plus dans le Tarn-et-Garonne. Et puis, elle tombe sur deux caravanes hein, de forains, en fait. Hein, on connaît le sort des forains pendant la guerre. Certains ont été internés, d'autres ont été assignés à résidence. Le jeu de mots n'est pas très bon. Ces personnes ont été réprimées par Vichy auparavant, etc. C'est le cas vraiment des nomades, en particulier en zone occupée avec les camps d'internement. En zone non occupée, avant novembre 1942, les personnes ont été assignées à résidence. Voilà, on a deux caravanes de forains qui sont là. L'unité allemande tombe dessus, et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une bousculade, etc. Et puis, les 14 personnes sont fusillées à Saint-Sixte. Voilà, 14 personnes sont fusillées à Saint-Sixte. Il y a parmi elles 6 enfants, dont des enfants en bas âge, et 6 femmes. Et l'une des découvertes, en fait, de mon livre et de mon travail d'enquête, finalement, ça a été d'abord d'essayer de redonner une identité, en fait, à ces victimes, hein, sur lesquelles, en fait, on ne savait pas trop qui a été tué. On savait que c'était vaguement des forains. Quand vous lisez aujourd'hui les synthèses qui ont été faites sur ce sujet, bah, vous avez quelques mots, quelques lignes. Voilà, il y a eu des forains qui ont été tués à Saint-Sixte. Et ce qu'on n'a pas voulu voir après la guerre concernant les tziganes de Saint-Sixte, c'est que, en fait, ces victimes étaient une population, la population honnie par le régime du Reich et par la division d'Astreich. La division d'Astreich, elle avait commis sur le front de l'Est des massacres entiers de populations juives et tziganes. Les mêmes officiers, en partie, la dirigeaient dans le sud-ouest de la France. Et à Valence d'Agen, vous aviez parmi les officiers qui avaient participé à des massacres de juifs et de tziganes. Et tombant, sans cahier de dénonciation, tombant sur ces tziganes, ces forains, a lieu cette exécution. Alors là, il n'y a pas de quartier, c'est pas comme à Dunes où on choisit des hommes, on est sélectif, on fait sur une délation et donc on vise des personnes qui sont que des hommes, etc. Il y a cette mise en scène de la pendaison. Non, là, on élimine tout le monde. Donc on est dans une logique différente, on peut dire qu'on est dans une logique génocidaire. Il y a 19 forains qui sont là, ils sont tous mitraillés, il y en a 14 qui décèdent, il y en a quelques-uns qui sont rescapés, sont blessés pour plusieurs d'entre eux très gravement. Les Allemands s'en aperçoivent savent pas, heureusement, voilà. Mais on est dans autre chose. Et là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est que aucun travail de reconstitution de ce que je viens de dire n'a été fait. On n'a pas décrit cette journée, on n'a pas voulu voir qui était cette population finalement massacrée à Saint-Sixte le 23 juin 1944. Et d'ailleurs, on n'a même pas vu que ce massacre collectif de Tziganes à Saint-Sixte est le seul massacre collectif de Tziganes commis en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne ne l'a dit, personne ne l'a écrit, aucun historien n'a fait ce constat très, très simple, hein, finalement. Ce massacre de Saint-Sixte, les 14 Tziganes de Saint-Sixte, est le seul massacre collectif de Tziganes commis en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ayant contacté des historiens qui sont spécialistes du monde nomade, du monde forain, du monde Tzigane, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on est dans une logique de prolongement en France, finalement, de l'extermination qui attendait les Tziganes sur le front de l'Est, finalement. La division d'Aesrach accomplie sur le territoire français, elle a un espèce de reste, une queue de comète, en fait, des massacres commis depuis 1941 sur le front de l'Est. Et c'est troublant que la mémoire collective n'ait pas dit ça, qu'on ne se soit pas rendu compte que ce massacre a cette singularité-là. Et c'est troublant que la justice derrière n'ait pas fait son œuvre par rapport à ce massacre aussi. Voilà. Et finalement, dans cette journée du 23 juin, c'est pour ça que j'y consacre vraiment un livre, et puis j'ai la chance d'avoir un éditeur, les éditions Arcane 17, qui ont accepté de faire un grand format qui permet de publier de nombreux documents qui sont tous lisibles et qui sont accessibles. Cette journée du 23 juin 1944, elle condense ces deux éléments, une logique génocidaire, celle qui vise les Tziganes, et puis une logique de représailles qui concerne les résistants sur la base d'une dénonciation par des habitants, ce que j'appelle moi une dénonciation, alors j'appelle ça la collaboration pro-nazi, la collaboration citoyenne pro-nazi, hein, de personnes françaises. On n'est même pas dans une logique où ce serait des institutions vichysoises qui auraient interpellé l'Allemagne ou les soldats allemands pour intervenir. Non, là on est dans une collaboration citoyenne, un engagement citoyen pro-nazi qui demande l'opération de représailles. Et cette journée, elle condense ces deux aspects-là. Et personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu parce que la plupart des réflexions qui ont été menées sur. Bah d'abord, il y a eu très peu de récits. Et quand il y en a eu, c'était des récits départementaux. Dune est dans le Tarn-et-Garonne, Saint-Six est dans le Lot-et-Garonne. Et on n'a pas voulu voir l'unité de cette journée, finalement, macabre, avec cette même unité qui commet les deux massacres.
Eh bien, Gilles Alfonsi, je crois qu'il faut que tout le monde lise votre livre en détail, qui s'intéresse à ces questions, parce qu'on y trouve quand même des éléments qu'on ne trouvera pas ailleurs. Même si vous citez quand même à la fin de votre livre, justement, un certain nombre de documents que vous avez consultés. Mais ce qui est important, effectivement, vous avez parlé du grand format. J'ai beaucoup apprécié aussi le grand format, parce que les documents sont lisibles. Et bon, même s'ils ont été reproduits, c'était pas des documents des fois un peu écrits à la machine à écrire de l'époque, hein. Mais enfin, on arrive quand même à les déchiffrer. Et c'est extrêmement important parce que ça amène les preuves. C'est-à-dire que vous faites une analyse, mais en même temps, vous amenez les preuves de tout ça. Bon, ben alors, Gilles Alfonsi, il me reste à vous remercier d'être venu dans cette émission pacifiste pour nous parler de ces massacres.
Merci à vous.
Malheureusement, nous, comme nous sommes, nous avons des positions contre les guerres et aussi contre les armées. Cette armée a été particulièrement destructrice. Et maintenant, on entend justement en Europe qu'on est en train de remettre pas mal d'armées en route, qu'on les réarme. Et on se dit que tous ces gens-là, une fois qu'ils sont armés, formés, et ben voilà à quoi ça peut aboutir. Bon, peut-être que je déborde là, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Alfonsi ?
Non, je pense que votre réflexion, elle est indispensable et que si on ne réfléchit pas après ce que je viens d'essayer d'évoquer à ces questions-là, à la question de l'armement, à la question de la guerre et de l'abolition de la guerre, c'est qu'on n'a pas compris. C'est qu'on n'a pas compris les enjeux essentiels qui sont là.
Bien, et ben nous allons terminer notre émission en écoutant encore une chanson de Léo Ferré, je pense. Ce sera la dernière. Et une qu'il a écrite bien après, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, enfin d'autres, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, mais sur le général, mon général, mon général. Ben, on sait à qui il faisait référence. On va donc écouter, on va terminer cette émission en remerciant Gilles Alfonsi, cette chanson de Léo Ferré, Mon général.
Je vous écris du paradis où je trouve que la terre c'est très joli. Puisque c'est vrai, faut bien que je le dise. Je vais vous mettre mon cœur à nu. Je suis peut-être un soldat inconnu, mais la place était déjà prise. Alors, comme j'avais un copain, je crois que c'était un Américain, il m'a fait monter à l'anglais. Dieu qui reconnaît pas le dollar, si je les ai eus, c'est un hasard. Je leur ai chanté la Marseillaise. Mon général, j'ai souvenance d'une pitié qui venait de la France. Paraît qu'il faut plus en parler. Il y en a que ça gêne aux entournures. Je me souviens des manucures. Je n'ai plus de main, je peux rien prouver. Mais il y a une chose que je peux vous dire, paraît qu'on veut vous faire élire, c'est vrai, sans blague, c'est enfantin. Ils savent pas que les vacheries de la gloire, c'est qu'au milieu d'une page d'histoire, il faut savoir passer la main. Je me souviens du petit bistrot de la gare du Nord, de votre photo que je portais comme une relique. Mon général, c'est peut-être idiot, mais je ne sais plus trouver les mots. C'était peut-être quelque chose d'héroïque. Ah oui, c'est ça, ils m'ont emmené. Je crois bien que j'avais les poings liés. Au fond, qu'est-ce que ça peut vous faire? Pensez qu'ils voulaient me faire causer. Comme j'avais rien à leur donner, ils m'ont mis le cœur en bandoulière. Mon général, j'ai souvenance de mes prisons hors de la France. Vous étiez loin, vous ne saviez pas. On se fait à tout, même au tragique. J'ai toujours eu le sens épique, mais pas pour ces sortes de galas. Si d'aventure je viens à Paname, il faudra rien dire à votre dame. Je vous sortirai incognito. Je vous emmènerai dans mes domaines. Je vous demande pardon de vous faire de la peine. J'aurai pas la gueule d'un héros. Je me souviens du matin clair. Il y avait même pas un reporter. J'en ai encore la chair de poule. C'était un hôtel si parfait que les clients y ressortaient jamais. Une vraie station, une vraie bourboule. Je me souviens, mais à quoi bon? C'était pour moi ma seule passion. J'aimais les chiens, Dieu me le pardonne. J'en ai vu un qui m'a souri. J'y suis allé, puis j'ai compris. Il l'avait dressé comme un homme. Mon général, j'ai souvenance que vous avez sauvé la France. C'est Jeanne d'Arc qui me l'a dit. C'est une femme qui avait de la technique, malgré sa fin peu catholique. Vous aviez les mêmes soucis. Et puisqu'il faut sur cette terre que chacun passe solitaire, vous avez le droit de rêver. Mon général, pour vos vacances, je vous raconterai l'histoire de France. Des fois que vous comprendriez.